accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, Osman Kavala, son nom ne vous dit peut-être rien, tout comme Oltsentsov en Russie. Osman Kavala est en prison en Turquie en raison de ses idées. Ce riche homme d'affaires, célèbre philanthrope, a été arrêté il y a tout juste un an. Pas de chef d'accusation, pas de procès. Cette figure centrale de la société civile turque est devenue la bête noire du président Recep Tayyip Erdogan. Osman Kavala est très engagé en faveur du dialogue sur les questions arméniennes et kurdes. Il est désormais soupçonné d'avoir tenté de renverser l'État turc. Son cas symptomatique du climat répressif qui règne en Turquie est suivi de très près par l'Union européenne. À Istanbul, le reportage d'Anand Lauer.
Ce soir-là, dans un restaurant d'Istanbul, on célèbre un anniversaire. Il y a des petits fours, du bon vin, une assemblée cosmopolite. Mais le propriétaire des lieux, celui dont on fête les 61 ans, ne viendra pas. Il est à 90 km de là, non pas dans un embouteillage, mais dans une cellule de prison où il vit depuis presque un an. Si son nom n'est pas familier aux oreilles du grand public, Osman Kavala est connu depuis très longtemps dans tous les milieux culturels, de défense des droits de l'homme et dans toutes les chancelleries installées en Turquie. Homme d'affaires à succès, il met depuis plus de 30 ans son argent et son temps au service de causes qui lui tiennent à cœur. Dialogue turco-arménien, questions kurdes, expression des minorités, pages oubliées de l'histoire turque, protection de l'héritage culturel anatolien. L'une de ces ONG, Anadolu Culture, organise et finance depuis plus de 15 ans des projets autour de ces thèmes. Kerem Mertispir, coordinateur des programmes, peine encore à réaliser qu'Osman Kavala est enfermé depuis un an.
Osman Kavala, c'est quelqu'un dont les bureaux pendant très longtemps n'ont pas eu de verrou. Quelqu'un que n'importe qui peut aborder pour lui raconter ses problèmes, ses projets, auxquels il s'efforce toujours de trouver une solution. Quelqu'un qui consacre sa vie à protéger et à enrichir l'héritage culturel. Il me paraît absurde que ce genre d'activité puisse constituer un crime ou déranger qui que ce soit. Mais le pire, c'est qu'on ne sait toujours pas de quoi il est accusé.
En effet, au moment de son arrestation à l'aéroport d'Istanbul, le 18 octobre 2017, Osman Kavala ne sait rien des motifs de cette garde à vue. Un an plus tard, ni lui, ni ses avocats n'en savent davantage. Le procès n'a pas commencé, le procureur chargé de l'enquête n'a toujours pas écrit son acte d'accusation. Unique information, à l'issue de sa garde à vue, le parquet avait réclamé son placement en détention préventive au motif qu'Osman Kavala aurait, je cite, « tenté de renverser l'État turc en organisant et en dirigeant les manifestations du parc Gezi à Istanbul en 2013 ». Il aurait également, toujours selon le procureur, participer au coup d'État manqué de juillet 2016. Des accusations reprises publiquement par le président Recep Tayyip Erdogan lui-même en octobre 2017.
Certains essaient de présenter ce soi-disant membre de la société civile comme un bon citoyen. Mais l'identité de ce personnage, surnommé le Soros de Turquie, a été démasquée. Toutes ses connexions ont été mises au jour. Qu'essayez-vous de nous faire avaler? C'est lui qui était derrière les incidents de Gezi. On le retrouve aussi derrière de très gros transferts d'argent. Vraiment, qu'essayez-vous de nous faire avaler?
Des accusations absurdes pour les amis d'Osman Kavala, dont le célèbre militant des droits de l'homme, Murat Çelikan, qui a vu son arrestation comme un avertissement.
Le but est de mettre en garde et de faire peur à la société. Beaucoup de gens se sont dit, si lui est arrêté, alors n'importe lequel d'entre nous peut être arrêté. Nous sommes dans un climat tellement impitoyable et illogique que tout, absolument tout est possible. Depuis la fin du processus de paix avec le PKK, le pouvoir cherche à réduire au silence la société civile. Cela s'est accéléré avec le passage de la démocratie parlementaire au régime présidentiel. Le pouvoir met en place une politique fondée sur le nationalisme et la violence. Je n'ai donc été qu'à moitié surpris d'apprendre son arrestation.
L'incarcération d'Osman Kavala a non seulement choqué la communauté des affaires et les milieux culturels en Turquie, elle a aussi stupéfié en Europe, où Osman Kavala était un contact privilégié pour les politiques et les diplomates. Le riche mécène semblait déranger le pouvoir, constate le politologue Ahmet İnsel, son ami de longue date.
Je crois que il est devenu de plus en plus dérangeant pour le pouvoir avec l'augmentation de ses capacités à mettre en relation les activités de société civile avec des fondations internationales, avec l'Union européenne. Et à partir du moment où la perspective de l'Union européenne était de plus en plus éloignée par le pouvoir, des éléments ultranationalistes ont commencé à montrer Osman comme un exemple de riche qui est là pour perturber la Turquie au nom des autres.
Ces dernières années, les médias pro-gouvernement l'avaient effectivement affublé du surnom de Soros rouge de Turquie, du nom du milliardaire et philanthrope américain George Soros, accusé par ses détracteurs de chercher à déstabiliser des gouvernements. Pour Osman Kavala, ce type d'accusation a vraiment commencé à l'été 2013, au moment des manifestations du parc Gezi d'Istanbul, qui ont fait vaciller Recep Tayyip Erdogan. Ahmet İnsel.
Et à partir de là, je crois qu'Osman est devenu, pour les nouveaux discours nationalistes du pouvoir, une sorte de tête de Turc riche, qui a des relations avec les organisations internationales, qui est de gauche, qui soutient les opprimés, les Kurdes, les Alevis. Et donc, dans cet nouveau discours du pouvoir dans lequel il y a nous et les ennemis, Osman est devenu un peu le prototype de l'ennemi intérieur.
Un an après son incarcération, ses amis, sa famille se partagent entre un faible espoir. S'il n'y a toujours pas d'acte d'accusation, il n'y aura peut-être pas de procès, se disent-ils, et un désespoir profond. Devant la lenteur de la justice turque, la Cour européenne des droits de l'homme a quant à elle décidé d'examiner en urgence la requête du mécène turc.
Et de droits de l'homme, il en est aussi beaucoup question en Ukraine. 5 ans après la révolution de la dignité, où les manifestants réclamaient la fin de la corruption et de l'impunité pour les criminels, c'est comme une chape de plomb qui est retombée sur le mouvement. Les militants civiques et les défenseurs des droits de l'homme sont la cible d'attaques. Plus de 50 personnes ont été blessées ou tuées depuis le début de l'année. L'indignation est forte, mais la contestation a du mal à s'organiser. C'est le reportage en Ukraine de Sébastien Gobert.
Le froid s'est déjà bien installé sur le centre de Kiev en ce jeudi d'automne. Mais il n'empêche pas plus d'une centaine de personnes de faire le pied de grue devant l'administration présidentielle de Petro Poroshenko.
Je prévois de rester jusqu'à 4-5 heures du matin. J'ai une couverture, un thermos, de thé chaud, des casse-croûtes.
Andriy Sinchenko est un expert environnemental. C'est avant tout en tant que citoyen qu'il a répondu à l'appel d'une cinquantaine d'associations et ONG. Sur place, entre haut-parleurs, drapeaux et verres de thé chaud, il y a un petit air de la révolution de Maïdan. Pour Andriy Sinchenko, on n'en est pas là.
Ce n'est pas une nouvelle révolution qui commence ce soir, mais nous sommes ici pour leur rappeler que nous sommes là. Ils ne peuvent pas continuer à ignorer les citoyens.
La manifestation a été provoquée par l'accumulation d'attaques contre des militants anticorruption, des défenseurs des droits de l'homme ou des citoyens qui demandent une responsabilité politique de la part de leurs dirigeants. À Kiev, une avocate qui recherchait les meurtriers de sa sœur a été elle-même torturée et assassinée en janvier dernier. La plupart des attaques ont lieu dans les régions sud-est du pays où le crime organisé est plus installé et souvent en lien avec les autorités locales. Dans tous les esprits ce soir, l'apparition vidéo de Katerina Handzyuk. Elle a survécu à une attaque à l'acide dans sa ville de Kherson, dans le sud du pays. Depuis son lit d'hôpital, le visage brûlé, la voix haletante, elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux.
Je sais que j'ai l'air d'être en piteux état, mais je suis bien traitée à l'hôpital. Je suis soignée par de très bons docteurs ukrainiens. Et je sais que je suis malgré tout en meilleur état que les institutions de la justice dans notre pays. Cette année, il y a eu plus de 40 attaques contre des militants civiques et défenseurs des droits de l'homme. Aucun coupable n'a été identifié.
Ce soir-là, le slogan de la manifestation est simple. Votre silence nous tue. Ces dizaines d'attaques restent la plupart du temps impunies. La peur règne dans la société civile et menace la capacité de mobilisation des citoyens. Katerina Randiouk.
Nous appréhendons tout le temps que les plus actifs d'entre nous soient tués ou blessés. Comment pousser les citoyens à militer pour leurs droits si nous ne pouvons pas les défendre ? Depuis quand cette situation est devenue normale ?
Les manifestants veulent exiger des autorités une réponse et des réactions fermes. L'administration présidentielle prend la protestation suffisamment au sérieux pour avoir fermé tout le quartier gouvernemental à la circulation. Mais de réaction officielle, il n'y aura que le commentaire évasif du procureur général Yuri Lutsenko lors d'une conférence de presse.
Ces attaques visent souvent à persécuter des citoyens qui ont des positions pro-ukrainiennes. Je ne peux pas parler de toutes les attaques, car certaines sont liées à des querelles économiques ou à des affaires criminelles. Mais quelles que soient les circonstances de l'agression, il y a des responsables. Pouvons-nous traduire les coupables en justice ? C'est le temps qui nous dira.
Ce qui enrage encore plus la société civile, c'est un commentaire que Yuri Lutsenko a fait à certains journalistes, hors caméra. Selon lui, les militants anticorruption sont eux-mêmes responsables du climat de violence, car ils entretiennent une haine totale des autorités. Ils se défient ainsi des critiques légitimes qui sont adressées aux dirigeants du pays, taxés de corruption et de blocage des réformes. L'indignation est bien réelle en Ukraine, mais la manifestation dans le centre de Kiev n'attire pas le millier de personnes espérées et ne dure pas toute la nuit comme prévu. Le pays se prépare à des élections présidentielles et législatives en 2019 et les Ukrainiens ne sont pas prêts à braver le froid alors que certains espèrent des changements dans les urnes. La manifestation a aussi trahi une faiblesse structurelle de la société civile, divisée et désorganisée. Certaines personnalités autrefois très populaires sont aujourd'hui discréditées. Et puis, la présence massive d'ultranationalistes a choqué. Maxime Boutkevitch est un défenseur de longue date des droits de l'homme.
Comment est-ce possible que des défenseurs des droits de l'homme s'allient à des groupes qui sont eux-mêmes violents ? Ils agressent les militants LGBT, les communautés roms, les militants gauchistes et beaucoup d'autres. Et ce faisant, ils profitent d'une impunité quasi totale.
Lors de ce rassemblement, on assiste par exemple à une scène surréaliste. Un jeune nationaliste à casquette qui vient protester contre la violence et discute avec un militant anticorruption alors qu'il l'a attaqué avec de la peinture verte il y a quelques mois.
L'appel à mobilisation était ouvert. N'importe quelle organisation pouvait s'y joindre. En fait, les organisations de l'extrême droite ont profité de cette ouverture pour s'infiltrer. Beaucoup d'entre elles ont signé la pétition contre les violences et l'impunité. Elles étaient très visibles à la manifestation. Beaucoup d'observateurs, moi y compris, considèrent que les extrémistes ont piraté la mobilisation.
Soit une manifestation détournée qui ne change rien.
Dans les jours qui ont suivi la manifestation, ces groupes radicaux ont quand même poursuivi leur pratique de violence contre les gens qu'ils n'aimaient pas.
Alors que l'Ukraine s'enfonce dans l'hiver et dans les campagnes électorales, c'est la peur et l'insécurité qui dominent. La confiance dans les autorités et la protection de la police est au plus bas. Et cette année encore, les commémorations de la révolution de 2014 seront vécues avec amertume.
La mort annoncée de l'heure d'été et de l'heure d'hiver. La Commission européenne propose d'y mettre fin à partir d'avril prochain. Il appartiendra alors aux États de choisir librement à quelle heure, d'hiver ou d'été, ils souhaitent désormais demeurer toute l'année. Mais la Commission invite les pays membres à coordonner leur choix. Quelles seront les conséquences de cette vaste réforme ? Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
C'est donc vraiment la fin du changement.
Ce n'est pas encore fait. La Commission européenne le propose, mais la décision devra être entérinée par le Parlement et tous les États membres au plus tard, en mars prochain, si l'on veut que le prochain passage à l'heure d'été, le dernier week-end de mars 2019, ou bien ne se fasse pas, ou bien se fasse pour la dernière fois, puisque chaque pays sera libre de rester définitivement à l'heure d'hiver, ou bien de passer définitivement à l'heure d'été.
Et pourquoi rétablir l'horaire unique ?
L'heure d'été qui existe depuis 1916 au Royaume-Uni a été rétablie dans les pays d'Europe continentale entre 1976 pour la France et le début des années 80. Il s'agissait à l'époque des chocs pétroliers d'économiser l'énergie en rallongeant la durée d'ensoleillement des soirs de printemps et d'été. Mais aujourd'hui, les économies d'énergie ont nettement diminué ce bénéfice du fait de la moindre consommation électrique de l'éclairage privé et public et du chauffage. En revanche, les inconvénients du changement d'heure demeurent. Effet sur le métabolisme animal et humain, surtout pour les enfants, sécurité routière, coût d'adaptation pour les industries de transport. Ces facteurs conjugués à la montée des valeurs de retour à la nature expliquent que les citoyens ne voient plus l'utilité du changement d'heure, comme le montre la consultation internet de cet été.
Si on vous comprend bien, l'heure d'été serait donc anti-naturelle ?
Comme il parle d'artificialisation des sols, les défenseurs de la nature voient d'un mauvais œil ce qui ressemble à une artificialisation du temps. Mais ce débat reste à caractère philosophique. En réalité, l'heure solaire ne correspond plus à nos modes de vie urbains. L'homme moderne veut se prélasser à la terrasse des cafés l'été, à la lumière déclinante du jour, et c'est un enjeu économique important pour l'industrie des loisirs. Au début du XXe siècle, au temps de l'heure du soleil, la population des paysans et des ouvriers se levait très tôt, dîner tôt vers 17h et se coucher en été avec le soleil vers 20h30. C'est la civilisation des loisirs qui a tué l'heure du soleil. Cela étant dit, la vraie question qui se pose est celle de la cohérence des horaires en Europe.
Et qu'est-ce qu'on entend par cohérence ?
Dans le choix proposé entre heures d'hiver et heures d'été, les pays du Nord ont tendance à préférer l'heure d'hiver dans la mesure où ils ne veulent pas d'un jour qui se lève en hiver à près de 10h du matin. Cela d'autant moins que repousser le coucher de soleil de 16h30 à 17h30 en hiver ne présente qu'un intérêt limité. En revanche, plus au sud, on apprécie beaucoup les longues soirées d'été. Ce n'est donc pas un hasard si la Finlande, le Danemark et les Pays-Bas se prononcent déjà pour l'heure d'hiver.
Alors que vont faire la France et ses voisins ?
Aucune décision n'a été prise. En Belgique, on évoque l'idée de consultation nationale. En France, en Espagne, l'opinion pencherait plutôt pour l'heure d'été. En Allemagne, c'est très indécis. Mais comme chaque pays est souverain, on pourrait se retrouver dans des situations aberrantes. Par exemple, si l'Allemagne choisissait l'heure d'hiver et la France l'heure d'été, il serait 16h en France et 15h en Allemagne, alors qu'au soleil, la France est en moyenne en avance d'une heure sur sa voisine et non pas en retard.
Et comment sortir de cette situation, Daniel ?
Comme le recommande la Commission, les décisions nationales devront être coordonnées, mais il faudra tenir compte de la rationalité scientifique. Actuellement, il n'est pas rationnel que la France, l'Espagne ou les Pays-Bas soient à la même heure que l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie. La solution satisfaisante voudrait donc que les pays situés à l'ouest, comme la France, choisissent l'heure d'hiver et les pays plus à l'est optent pour l'heure d'été. Cette différence ne poserait guère plus de problèmes techniques que l'actuel changement d'heure. Mais si les discussions entre États n'aboutissent pas du fait d'opinions publiques réticentes, on peut parier que la suppression du changement d'heure sera renvoyée au calende grec. C'est le cas de le dire, puisque la Grèce a déjà annoncé qu'elle conserverait l'heure d'hiver et l'heure d'été.
Merci Daniel Vigneron, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
C'est une situation inédite qui touche les Pays-Bas cet automne, alors que la France doit faire face aux inondations. C'est la sécheresse après des mois d'été très chauds qui sévit. Le niveau des fleuves en Hollande n'a jamais été si bas et les conséquences au quotidien se font déjà sentir, Antoine Moutot.
Plus de poissons. Des bateaux maisons qui touchent le fond et penchent dangereusement, des embarcadères à l'abandon, un trafic fluvial fortement perturbé. Ce triste tableau, c'est celui des régions néerlandaises traversées par de grands fleuves et rivières comme le Rhin, le Waal ou encore l'Eisel. Le niveau de l'eau y a rarement été aussi inquiétant. En octobre, un record historique a même été franchi. À Lobith, dans l'Est, près de la frontière allemande, le niveau de l'eau est passé sous le minimum de 686 cm au-dessus du NAP. Le NAP, niveau normal d'Amsterdam, c'est en fait le niveau de la mer calculé à la néerlandaise. Et selon les spécialistes, malgré de récentes pluies, la situation pourrait bel et bien perdurer. La région a beaucoup de mal à se remettre des fortes sécheresses de cet été. Désormais, les Néerlandais souhaitent énormément de pluie à leurs voisins allemands et suisses traversés par le Rhin, dans l'espoir que le fleuve soit rapidement réalimenté en eau. En tout cas, la vie dans l'est des Pays-Bas aura été fortement chamboulée au cours des dernières semaines. De nombreux bacs qui transportent d'habitude les habitants d'une rive à l'autre ne peuvent plus circuler. Les péniches, elles, sont obligées de réduire drastiquement leur chargement et des exercices militaires de traversée de fleuves ont même été annulés. En tout cas, le spectacle est impressionnant. À certains endroits complètement asséchés, des objets insolites comme de vieux vélos refont surface.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Steven Elsley. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain, mais dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité sur RFI.